Alors, je vais vous lire un premier travail qui fait partie d'une collaboration en fait avec un artiste plasticien, musicien qui s'appelle Laurent Chambert. On a travaillé ensemble autour d'un travail qui s'appelle Paraf, que vous pouvez voir dans la revue des ondes. Et c'est des textes accompagnés de sons. Là, il n'y aura pas de son, il y aura mon son, ma voix. Et ce texte, ces textes s'articulent autour du monde de l'entreprise. La seule suite. Il n'y a qu'une seule suite à donner aux événements récents. Mon travail, ton travail continue. Le son des trottoirs continue à swinguer en Europe. Michel écrit à Michel. Charlie dessine chez Charlie. La ville ne s'effondre pas. Je vais d'ailleurs au mariage d'un collègue de travail après les événements parisiens. Cette invitation à mon mariage nous a pris de court. À son mariage. Bien sûr, nous les collègues de la boîte, des contrats à durée indéterminée pour la majorité des salariés. Une invitation au mariage de notre chef, en fait. Nous ne nous y attendions pas pour la simple et unique raison qu'il est notre ennemi numéro un, évidemment, dans le service gestion, le chef Eric. Mais il nous a invités, et nous allons à son mariage, tous. Ça me fait. La liste des cadeaux de mariage de notre chef Eric n'est pas originale. De la vaisselle en porcelaine, très chère, de cette ville de province. Du linge, de literie, de l'autre grand magasin, des grands boulevards voraces. Et un voyage à Bodrum, au départ de Beauvais. Des raquettes de ping-pong et cet abonnement incompréhensible d'un an au journal Le Monde pour 230 euros. Le chef Eric exagère. C'est le chef du service gestion, c'est mon chef. Nous avons organisé une collecte sans sourciller auprès des autres services et aux étages. Tout le monde a donné un petit quelque chose pour la période du futur marié Eric le chef qui nous surveille encore depuis 2002, 2005, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2020, je ne compte plus. Et dans le futur, le chef de notre entreprise à tous, l'entreprise et ses peaux et ses peurs. Je suis allée au mariage de mon chef Eric. J'ai offert mon cadeau à Eric, mon chef, en main propre. C'était un étrange climat de mariage. Pas vraiment l'hiver et pas encore le printemps. L'entre-deux saisons, le flou total d'une époque, un moment de vivre ensemble dans la formule et entre collègues. Vois-tu ? Je stresse, nous stressons sur le gazon de la grande fête de l'amour. Eric, notre chef, est très en costume blanc de jeune marié. Il y a des chapeaux orange et jaune sur la tête des femmes travailleuses et modernes la semaine. Leurs enfants portent des mini-costumes qui leur donnent des attraits monstrueux. Petits hommes aux membres rétrécis et à la coupe de cheveux en brosse proprette, gominée, parée à conquérir un monde édenté de ses sordides abus, son sodomisme fréquent, bouffé de l'intérieur par des milliards de canines minuscules. On trinque au futur et à notre avenir dans l'entreprise. On trinque à la peur et à la méfiance. Les mariages ressemblent à un carnaval de déséquilibrés, en liberté, béni par un curé et le maire, ainsi que ses adjoints municipaux. Il y a la famille d'Éric, notre chef à nous. Ce sont là des collègues frustrés de se retrouver ainsi piégés au fond de leur torpeur économique. Perdre son poste dans une grosse entreprise en ces temps si troubles. Piégé au mariage d'un chef maudit. Je voudrais danser, je voudrais me suicider dans une ville quelconque. dans un contexte urbain totalement isolé, anonyme. Je voudrais partir, mais je peux pas. C'est la vie moderne, c'est mon sentiment. Je souhaite changer de poste à mon travail. Et pour réaliser ce souhait, il faut gravir des échelons. Éric, mon chef, est ma seule promesse réelle. Le chef qui valide ma migration en interne de la boîte où je bosse depuis tant d'années. Et je danse. Et je bosse. Éric, le chef, boit du champagne à son mariage avec sa jeune épouse lorsque je danse. Et vint le jour où l'on décide de faire la paix avec le marié, chef Éric, afin d'avancer dans l'avancement de mon poste de travail. Il faut partir sur d'autres bases puissantes et positives, et Éric, le jeune chef marié, le chef de notre travail, nous invite à son mariage fantastique, pourra défendre ma cause de salarié crevé et névrosé. Je suis présent à son mariage après tout. Je le soutiens par ma présence dans sa vie future. Je pourrais presque l'aimer s'il n'était pas lui, Éric, mon chef. Le banquet du mariage du chef Éric s'est ouvert à 12h30. Il y avait un grand parc, des gobelets colorés. Les collègues se sont retrouvés autour d'Éric. Un hourra improvisé, des accolades. Éric pleurait de joie. Nous l'avons alors applaudi. C'était un grand moment de lâcher prise collectif. Des instants rares et importants pour le mental du service gestion de notre boîte. On a dansé dans la salle des fêtes de la commune de Plessis-Feu-Aussoux jusqu'à 5h du matin. Je suis rentrée en voiture avec cet autre collègue qui m'expliquait qu'il comptait bien monter en grade cette année, lui aussi. La route était vide. La nuit était violette. Le bruit du moteur sans furie se mêle aux notes des mots sans lueur du collègue, ambitieux conducteur de notre errance nocturne et crade, chauve, blafard collègue de la nuit, mauve maintenant. J'ai une crise de rire, nerveux, puis un mal de ventre insoutenable, une envie pressante débarquée aux portes de la capitale et de ses caméras de surveillance. J'avais envie de chier. La bagnole a calé à ce moment-là précisément. Elle s'est arrêtée brusquement sur le bas-côté d'une rocade machin. Les feux de la caisse éclairaient mon visage et mes genoux nus. Le conducteur collègue restait à son poste de conducteur, au chaud, dans sa caisse en rade. J'allais donc me rhabiller, puis retourner à la voiture du collègue et attendre gentiment une dépanneuse lorsque j'ai entendu des pas d'homme arriver dans ma direction et mon froc sur ma route noire. Le noir complet des bois de Vincennes. Le temps à peine de me relever pour découvrir le visage d'un travelo brésilien, maghrébin, je sais plus. Une créature brune, des gros seins, des cuissardes, un blouson, du maquillage sur les dents. On a hésité à se payer le travelo, blouson en cuir. On a culpabilisé, ce n'était pas la bonne époque. Ce n'était pas la bonne heure, peut-être. Le collègue m'a rappelé qu'on avait réunion de travail très tôt le lundi matin, au bureau, et qu'il recevait son fils en garde alternée chez lui dans quelques heures. Le travelot se trémoussait dans tous les sens sur cette rocade obscure, et il nous a proposé de vérifier le moteur de notre voiture en panne. Et le travelot a réparé la panne de la pompe à huile en cuissarde pour 40 euros. Le travelot travaille la nuit dans ce bois, à côté, et occasionnellement, il répare les voitures et les machines à laver de marque allemande. On a pris sa carte de visite, les coordonnées du travelot de la nuit violette. Et il est retourné travailler dans son bois et dans son t-shirt jaune avec écrit devant en brillant I am free. Nous sommes rentrés et nous couchés, chacun chez soi, avec le sentiment d'une vie impossible à atteindre, bon sang, en tant que salarié et dans cette entreprise. Qui appartient à un premier manuscrit que j'ai écrit, qui s'appelle, le manuscrit s'appelle donc Nouvelles de la ferraille et du vent. Certaines de ces nouvelles, vous pouvez voir sur des sites, sur internet, je ne sais plus, la revue des ondes par exemple, et certains dans la revue L'Armée Noire, Catastrophe, j'en oublie peut-être. Ça s'appelle La blonde seule. C'était la dépression de Mylène qui se cachait en elle. Un corps, un crépuscule de perles. Elle se couchait sur le chemin de l'école. Son mari lui serrait le corps. Il était seul face à la dépression de son épouse. Nous ne savions pas ce qu'était la dépression sur le chemin de l'école. Nous marchions vers l'école. Nous apprenions des trucs qui aident à comprendre comment tourne une planète. Nous sortions de chez nous et nous marchions d'un pas déterminé pour comprendre comment fonctionne la planète, les gens. Mylène souffrait du mal de l'âme, l'âme cassée. Un mal, une morsure, la chair en sang. Les larmes de Mylène tombent sur les sols goudrons, au pas d'une cité minuscule, silencieuse. Un coin paumé en France. Un jour, nous avions cours à 14h, un cours d'histoire-géographie. Nous étions une bande de petits morveux. Nous aimons les mystères de la vie et l'histoire-géographie. Mylène avait dans les 50 ans. On la connaît, Mylène. Et puis là, nous l'avons trouvée sur le chemin vers le champ de cerises de M. Bompard, qui se trouve derrière le collège. Il y avait encore des champs et des fermes non loin de la cité. La cité du Midi de la France. Le collège de notre quartier. Notre collège à nous, c'est notre collège, quoi. Elle était couchée par terre. Elle était blonde et elle avait les cheveux longs. Sa jupe était relevée jusqu'au-dessus de ses cuisses blanches. Elle avait les yeux bleus et ouverts, Mylène. Des yeux. Et il fixe un truc. Le sol. Le visage de la dépression, les yeux abattus, Mylène. Elle regardait droit dans le vide. « Oh ouais, Mylène, qu'est-ce que tu fous par terre, Madame Mylène ?» Je me suis dit alors que son regard devait tomber sur les herbes folles et fatiguées en face d'elle. Ses yeux devaient faire ça. Je me suis dit. Je me suis dit que c'était une femme française perdue. Elle lançait des râles. Elle était seule. Oh, nos mères ne sont pas seules. Mylène est seule devant les herbes folles du chemin qui mène au collège. Nous l'avons observée longtemps gémir. C'était le son qui sortait de sa bouche liquide, de sa langue bleue, claquée. Et Kader a pensé qu'elle jouait la comédie. Nous étions en 1982. Kader a pris un long bâton et a donné quelques coups sur le corps de la blonde seule, couchée à terre. Elle ne bougeait pas vraiment et continuait ses râles de chienne perdue. Kader a relevé davantage la jupe de Mylène. Il s'est amusé à la dresser et qui disait « Allez, allez, lève-toi Mylène, sois un peu courageuse quoi. T'as été méchante aujourd'hui Mylène, je vais t'apprendre à obéir méchante Mylène, un mauvais chien ça. » Ah, ça nous a fait rire, Mylène au sol. La blonde solitude ne bougeait toujours pas. Nous ne bougeons pas. Personne ne bouge. Nous étions en retard au cours d'histoire-géographie à cause de Mylène. Nous lui avons craché dessus. Elle ne voulait toujours pas obéir, c'est-à-dire se lever et rentrer chez elle. Espèce de femme, va, fada, va. Elle est tarée, la Mylène, la vieille. Canard lui a mis une fourmi dans l'oreille et puis une note dans la bouche. Son mari revenait de leur domicile. Il nous a aperçus. Il nous a demandé de laisser Mylène. Hé, arrêtez, laissez ma femme, bande de salauds. Laissez Mylène tranquille. Mylène s'est tuée 2 jours plus tard. Nous avons continué à aller à l'école de la cité. Nous suivions des cours d'histoire-géographie. Sur la route, dans la voiture. Ils sont des jeunes d'ici. Ils vont là-bas. On peut en trouver là-bas du matos. Ce n'est pas cher dans d'autres villes. Ça ne coûte pas beaucoup dans les villes de plus de 80 000 habitants. Ils sont ensemble. Leurs cheveux ne bougent pas dans la voiture en route. Ils ne se regardent pas dans la bagnole. Ils ont une cagnotte dans le coffre. Fourrée dans une boîte à outils, fermée, elle, à double tour. Et la clé de la boîte à outils est dans le slip du conducteur. Ensuite, ils vont vendre le truc ailleurs. Ça vaut le coup. Ça va mal se passer s'ils se tuent en voiture. Et ils se sont pas tués tous. Il y en a un qui est mort, ok. Le conducteur est mort avec la clé de la boîte à outils dans son slip. Le slip et les jambes du conducteur dans le pantalon, lui-même mort. Imagine un peu. En route pour un plan qui dérape à fond dans la caisse. La caisse à outils bloquée par la clé bloquée dans le corps du conducteur mort sur le coup, en plein dérapage incontrôlé, en fin d'après-midi. Imagine, le plan a basculé et la route est barge. Ils sont sortis de la bagnole cassés en deux. Et là, ils ont fait du stop avec le sang qui coulait sur leurs paupières. Non, on ne les a pas pris en stop. Pas tout de suite. Les dents se brisent dans leur bouche quand ils marchent trop vite. Et ils sont tristes et en colère. La peine et la haine nagent dans le fond de leur cœur. Les survivants de la route tarés rentrent chez eux après une nuit en garde à vue. Leurs yeux et leurs poches sont vides quand ils poussent la porte de leur maison. Ils pleurent dans le thorax vers les poumons. Le thorax est caché derrière les habits. La mère du conducteur mort pleure devant des images de sa télévision. Elle est dans le salon, au 5e étage du bâtiment G5. Et son cœur tremble et ses mains serrées font un bruit. Personne n'entend ce bruit dans le quartier. Elle pense qu'elle n'aurait jamais dû partir de son pays natal. Elle croit que c'est de sa faute tout ce qui arrive. Elle regardait son programme télévisé préféré avant d'apprendre la sale nouvelle. Elle s'est arrêtée brusquement. J'ai un problème de plage. Elle ne sait quoi dire aux flics. Et les flics, eux, ils regardent le plafond de son salon. Ils pensent à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ne pensent à rien. Ils sont debout dans le salon en face de la mer, à côté de la télévision en marche. Elle se lève et va téléphoner dans son pays pour annoncer la sale nouvelle. Au bled, au téléphone. Oui, allô, la route est barge en France. Le fils est mort, sale fils de pute. On va tuer la télévision de la mère. On va se casser les dents. On va casser la boîte à outils. On va se manger de la mort du conducteur. On va crever un chien. On va pleurer derrière une porte. On va chercher du travail machin. On va y arriver. On va sourire. Il faut un plan pour oublier les yeux de la mère. Un plan, un chien, une boîte à outils. Là, c'est, je vais vous lire un extrait d'un roman sur lequel je travaille en ce moment. Nous brûlons les pires de nos factures dans l'évier de la cuisine, près du poste de radio. Les factures flambent enfin, et nous écoutions radio, Alger, chaîne 3 ou RMC. Il a lu la lettre, 1000 fois en silence. On mangeait, en le regardant lire. Il a lu cette lettre dans la cuisine, devant son assiette. Il a lu la lettre sur le canapé, toujours en silence. Il ne l'a pas lâché des mains. Il a regardé sévèrement l'heure, à sa montre, puis m'a lancé « Allez, allez, mets tes sandales, on y va !»« Où ?» ai-je répondu. Aucune réponse. Il a tourné les yeux vers le plafond et soufflé « J'en ai marre de toute cette famille !» Ensuite, il relève ses manches et demande à ma mère sa sacoche en cuir noir. Il a demandé sa sacoche en cuir noir dans leur langue à eux, le livret de famille et mon carnet de santé. Elle a obtempéré immédiatement, ouvert plusieurs sachets noirs et lui a donné des documents. Et elle lui a dit « Tiens, 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 on va pas se battre !» On observait son inquiétude. On remarquait bien qu'il est souvent seul quand il doit décider devant toutes ses lettres. On le regardait décider. C'était à chaque fois comme un moment de profonde prière. Nous prions qu'il trouve des solutions à nos lettres effarantes. Je supposais qu'on prendrait la voiture. J'étais heureuse à l'idée de monter près de lui, mon père, juste rouler quelque part et fuir la canicule de l'appartement en plastoc, en dehors de la cité, sur une route de campagne, une route arborée et apaisante, et ce parfum unique de gasoil. Je ne m'en lasse jamais. Notre cam à tous, à jamais. Il n'en sera point ainsi, pas du tout. Hors de question, il suffit de traverser le quartier à pied pour se rendre à la convocation de la lettre. C'est aussi simple que cela, fendre notre périmètre. Pour le fendre, pas besoin de bagnole. Ma mère nous a vu partir par la fenêtre en souriant. Elle m'a même fait un coucou. Coucou, son geste préféré depuis cette fenêtre familiale. Seulement, je n'ai pas eu le temps de répondre à son geste amical. La course a démarré au quart de tour. J'ai juste souri à la fenêtre un court instant, quelques centimètres de seconde. Rangé rapidement mes dents à leur place et hop, un départ épouvantable. Mon père, c'est un homme fort, tyrannique. Ça, je le sais du haut de mes sandales. Peut-être qu'il marche comme un guerrier arabe, ou comme un cheval arabe. Cet arabe marche vite. Il a peur de la lettre. C'est grave. Cette histoire devient peut-être grave à cause de moi. Après tout, ce n'est pas de ma faute si nous avons reçu cette lettre. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi qui gère le courrier de notre vie et de notre baraque, ni même ma mère, ni les autres membres de cette famille. C'est bien lui qui assure la gestion du courrier. Il n'y a que lui qui a le droit d'ouvrir des lettres et personne d'autre, sous peine de remontrance. Je ne suis coupable de rien du tout. À la fois, il est notre responsable. Il doit prendre ses responsabilités. Il les prend. Mon père court et murmure au soleil. Sa prière, drôle de prière. Ô bouche cousue de force, aveugle si longtemps, je rends hommage par mon espèce d'exil troué. Regardez, braves gens, voyez comme nul ne savait maîtriser le français que l'on parle à la télévision et au guichet de la ville, et ce depuis 1000 ans. J'ai choisi de venir ici. J'ai réussi. Regardez, mes enfants seront sauvés. Ils seront tous instruits grâce à moi. Je travaille sans arrêt pour cela. Les faire vivre, ils sauront maîtriser le français que l'on parle à la télévision et au guichet de la ville. Est-ce que cette langue, le français, ramènera de l'argent, de l'ordre dans nos KGB? Franchement, le français est une langue pleine de raisons, il dit mon père. Nous pensons ainsi, nous aussi, comme mon père, et les gens qui la pratiquent aisément sont souvent d'humeur égale, calme. Ils sont bluffants et fluides. Le français hypnotise mon père, il le pétrifie sur place. Je l'ai vu l'autre jour dans la cuisine. Il était pétrifié quand il regardait la télé. Les consoles sont hachées, sont bloquées dans sa bouche de papa. Elle traîne les petites voyelles. Il roule le R. Allons, allons, il faut que cette bête cynique de l'ignorance s'arrête, telle une hémorragie. En avant tout, tigueule. N'oublions pas de dédicacer l'inscription de ma fillette à l'école, à nos ancêtres, aux 1000 tatouages. Ma course est sacrée. Elle résonne, espérons-le, jusqu'au siècle lointain, dans les âmes de nos infernales tribus, infernales aux langues tailladées. Nous en avons perdu tant et tant du temps à ne pas savoir lire et écrire des langues, des savants, poètes, de toutes ces galaxies de races qui se confondent dans nos veines, dans nos fantasmes les plus dingues. Et ils gueulent. Est-il possible de demeurer ainsi lettré durant 1000 ans? Certainement, j'en suis la preuve vivante. Depuis les navires glorieux amarrés sur les ports des cités blanches fréquentées par les putes infâmes du Levant, nous perdons tout. Morts ou négresses d'adrares qui se prélassaient même et passaient leur temps, finalement, qu'à gravir vainement les échelons de leur misère par le sexe ou la mendicité. Les putes arabes, oh les putes gueules, dans la rue, Alexandre Dumas. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous foutu. Comment sont-ils arrivés à un tel degré d'ignorance jusqu'à avoir envie de leur taper dessus? Et je sens qu'il a envie de leur taper dessus, mon père. Et il hurle, il délire en plein cagnard, s'adresse aux arbres, qu'il prend un témoin, et le type et son chien nous observent. Il hurle aux arbres, à tous les ouvriers moustachus des chantiers d'autoroute, et à tous les ouvriers moustachus et les arbres. Et il gueule, nous perdrons notre temps à trouer cette route. Et il éclate de rire et je cours près de lui. Il balance, je suis né bourricot, je ne suis pas vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas, je ne sais pas vraiment lire et écrire. Je ne suis capable de rien, sauf de ce métier abrutissant. Trouer la route, c'est la faute de ma race. Ils m'ont sorti de l'école pour travailler. À 11 ou 12 ans, je m'en souviens plus, parce qu'il faut travailler pour bouffer et faire vivre la tribu, cette race d'arabes. Je me hais, je les hais, je hais la canicule, je vous hais, ces conditions de travail sont horribles, mais je lutte et je le fais en l'honneur de ma race. Je suis un bon type, un bon musulman, je n'aurai jamais mal, je suis indispensable, et c'est mon rôle et il court. Tous, eux, cachés derrière les fenêtres grillagées d'une époque oubliée, se mordaient le sang. Et la rage montait silencieuse dans la pénombre d'une vieille casbah. La rue s'entra telle que loi, la rue de l'impuissance. Oui, madame. Et il rajoute sur les chemins paumés de mascara, il perdait. Où les arrières-boutiques des pieux cordonniers d'Oran et de Djelfa, tous se sont mis à gémir de chagrin et d'ignorance, à en perdre leur temps, bien sûr, bien avant nous, bien avant notre course. Et dans les plaines rouges et vierges de la Rouate, Biskra, ils tordaient leur sexe de douleur, se posaient des questions, s'esclaffaient de rire devant leurs bêtes, d'un rire dément, comme le mien maintenant, Le mien, celui d'un papa. Et quand je ne comprends pas la canicule ou la haine des gens, je ris. C'est ma réponse au mektoub. Le mektoub, je l'encule et on court. Ils tordèrent leur nom, leur nif, leur moustache, leur compte, leur tribu, leur temps et leur chèvre. Tous les jours, que Dieu fait, mes ancêtres invisibles, inconnus, dilués dans l'enfer du néant. Une manie de faire l'amour le matin, chez ses ancêtres, l'après-midi, la nuit, le fer. Ils sont seuls, ils aiment l'amour et la vie en cachette. Ils font croire au diable qu'ils sont tristes, alors qu'ils sont absorbés à faire l'amour. C'est dégueulasse, ce qu'ont fait mes ancêtres. Heureusement, le muezzin pense à eux 5 fois par jour, sinon ils deviendraient peut-être fous, comme moi sous le soleil, ici. Ils sont la tombe en trous de serrure d'Oued Haroun aussi, la tombe du temps et de l'humanité oubliée, perdue dans le désert. Ils ressemblent aux fresques du Tassili, mes ancêtres, en vrai. Ils ne connaissaient pas l'existence d'un Saint-Augustin, ne savaient pas qui est ce type. Je connais pas Saint-Augustin, gueule mon père. Laissez-moi tranquille, laissez-moi bosser. Qu'est-ce que c'est que ce Saint-Augustin? Un saint? C'est peut-être un Algérien comme moi. Peut-être, au paradis, rejoindrai-je Saint-Augustin, le saint? Un client quelconque dans un PMU quelconque pourrait tout à fait me raconter Saint-Augustin. Mon père délire. Il continue, on ne sait jamais, c'est le mektoub qui tranchera. On peut toujours espérer. Les riches, des fois, jouent aux courses. Les riches, les huiles, les riches, avec leurs belles automobiles, ils savent tant de choses. Pourquoi Saint-Augustin? Parce qu'il est de mon pays, peut-être. Sacré saint que ce Saint-Augustin. Et de la Cala, aux ruines de Renchla, des indigents de Beni Slimane aux ancêtres Kouloukli, pâles ruinés des collines de Damiette et vignes noires de Champlain, tous se faisaient berner. Sale temps pour les bêtes, et ma tribu arabo-berbère. Je ne sais pas si je suis arabe ou berbère, ou je sais pas quoi, cette race que je suis, je sais pas quoi. Et moi je cours et je regarde mon père. Je cours avec mon père. Je comprends dans la course, je capte. Qu'il faut vivre vite et bien et courir droit et manger et certainement mourir un jour, le ventre vide ou plein, troué dans cet ordre, bien vivre. J'espère une vie meilleure. C'est ce qu'il dit. Je compte sur mes enfants, s'esclave le père. Nous ne mourrons jamais plus bêtes qu'avant. Et il me regarde courir, et il exige que je cours plus vite. Et là, on arrive, il pousse la porte de l'entrée de l'école. Et moi je me dis qu'enfant, je suis déjà KO dès la première course de mon existence. Je n'ai pas envie d'apprendre quoi que ce soit. Je suis une enfant, hélas, bien paresseuse. Moi je rêve de route vide. Je rêve de jonquilles, ce sont là mes doux et seuls plaisirs pieux, les routes et les jonquilles.